s'appelle Rue Freud, où vous ira, et vous rapportez dans cet ouvrage un chemin d'écriture qui commence par la découverte de la rue Freud dans le 19e arrondissement, à la lisière du périphérique. Vous dites de ce livre qu'on peut le lire comme un conte ou une fiction psychanalytique, avec pour motif principal l'écriture de la psychanalyse, c'est-à-dire la transmission de cette expérience très singulière qui se trame entre le psychanalyste et l'analysant. Je crois que c'est le terme que vous utilisez. Oui.
On dit aussi patient, mais enfin bon.
Les récits que vous entendez dans votre cabinet éveillent en vous des souvenirs personnels, mais aussi des souvenirs qui vous rappellent des figures de la littérature ou des mythes qui vivent en vous et parfois aussi des traces de textes que vous avez gardés dans votre mémoire d'étudiante. Mmh. Et c'est sur les traces de ces textes que vous partez. Avec une méthode et un parti pris qui donne aussi le ton du livre, hein. Vous écrivez « Je me laisse aller à mes associations au risque d'aller à l'encontre du sens ». Et ça, je trouve que ça donne à votre livre une liberté de ton, parce qu'on n'est pas là avec une psychanalyste qui écrit des ouvrages en donnant des recettes, en disant comment il faut faire pour un... comment comprendre les choses, qui explique les choses. Non, vous posez des questions, vous tracez des pistes, vous ouvrez des voies, et on vous suit sur ce chemin-là. Mais en tout cas, pas de réponse toute faite. À travers cette plongée dans les grands textes, vous mettez l'accent sur les effets salvateurs du récit, les effets salvateurs de la mise en récit du trauma, dites-vous, ou comment la capacité narrative permet de se réapproprier son histoire. Ces textes dont vous nous parlez, je vais citer rapidement trois exemples. Vous les travaillez non seulement du point de vue de la psychanalyste que vous êtes au travail avec son patient, mais aussi en tant que lectrice et aussi en tant qu'auteur. Vous nous parlez de l'épopée de Gilgamesh. Alors, vous donnez les sources, hein, et ceux qui seront intéressés pourront trouver les traductions les plus pointues. L'épopée de Gilgamesh, c'est 11 tablettes de glaise, un texte qui remonte à 1700 avant notre ère, c'est ça, hein, même plus.
Plus. Troisième millénaire.
Et vous êtes confrontée, là, en tant que lectrice, à ce que vous appelez un texte troué, et vous expliquez à quel point ça peut être troublant et même effrayant d'être en face d'un texte où il manque. Où il manque des épisodes, où il manque des bribes, et vous rapportez ça évidemment à la situation que vous pouvez vivre avec les gens qui vous parlent de leurs histoires qui sont parfois elliptiques. Vous nous parlez aussi des Mille et Une Nuits, et notamment de l'épisode de Simbad le Marin. Moi j'avais oublié que il y avait Simbad le Marin qui racontait ses aventures. Mais qu'il y avait aussi Simbad le Terrien, celui à qui Simbad, une espèce d'homonyme, à qui Simbad raconte ses histoires. Et là, vous nous dites que pour que le récit advienne, il faut que quelqu'un l'écoute, ce récit. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui recueille ces paroles-là. Vous écrivez « Si je transpose les personnages du récit sur des sujets en analyse, il apparaît que raconter des histoires ou les écouter leur offre la garantie d'une capacité à se déplacer psychiquement. » Ça, c'est vraiment la formidable plasticité du conte, hein, qu'on peut raconter de mille et une façons, qui peut trouver des interprétations diverses. Ça rejoint aussi votre projet de donner forme dans l'écriture, et là je vous cite encore, à ces va-et-vient de la pensée analytique entre le passé et le présent, entre soi et l'autre, entre le fantasme et la réalité, entre le souvenir, l'expérience, l'émotion appelant tous à s'écrire. Le dernier texte auquel vous vous attaquez, enfin, la Bible, avec notamment l'épisode de la femme de Lot. C'est une analysante qui vous remet sur les traces de la femme de Lot, pétrifiée après cette retournée sur Sodome. Et bon, vous vous demandez sur quoi se retourne-t-elle. ramené par vos recherches à l'étude des textes, des textes bibliques, pardon, on vous retrouve à Seth, sur le port de Seth, où vous observez les mouvements des bateaux, et notamment d'un paquebot, une sorte de Léviathan en quelque sorte. Hein. Et vous vous laissez submerger par les émotions qui vous viennent. Et c'est un très beau chapitre, en tout cas que littérairement on peut beaucoup apprécier, où là, vous êtes la femme qui affrontait les mythes. Hein. Avec succès. Et on voit comment vous laissez s'exprimer toutes les forces fantasmatiques qui sont en vous et qui vous habitent. Et ce chapitre, moi, j'ai trouvé très beau, d'abord très bien écrit et très intéressant, parce que dans ce chapitre-là, pour des lecteurs, il y a un éclairage sur ce qu'est le mystère de la création. Hein, où est-ce que s'origine la création ? Dans ce chapitre, il y a une piste pour trouver les fils, la trame et ce qui fait le motif dans le tapis. Je vous le disais tout à l'heure, on entend certains récits de vos patients, on entend les associations que vous faites. Et puis une fois que le livre est fermé, ben le lecteur, à son tour, il part dans ses associations et dans ses réminiscences et dans ses souvenirs. Et je me suis, moi, souvenue d'un court texte de Walter Benjamin que je vais vous lire avant de vous laisser la parole, qui s'appelle « Récits et guérisons ». L'enfant est malade. La mère le met au lit et s'assoit à ses côtés. Et puis elle commence à lui raconter des histoires. Comment faut-il l'entendre ? Je le pressentis lorsque N me parla de l'étrange pouvoir qui guérit, qui se trouvait dans les mains de sa femme. De ses mains, il me dit, ses mouvements étaient extrêmement expressifs, mais on n'aurait pas pu dire leur expression. C'était comme si elle racontait une histoire. Nous connaissons déjà la guérison par le récit grâce aux formules magiques. On sait d'ailleurs comment le récit que fait le malade au médecin au commencement du traitement peut devenir le début d'un processus de guérison. Et alors se pose la question de savoir si le récit ne crée pas le bon climat et les conditions favorables pour bien des guérisons, pourvu qu'elle se laisse flotter suffisamment loin jusqu'à son embouchure sur le fleuve du récit. Je vous laisse la parole.
Merci. Merci de cette lecture. C'est très agréable d'entendre parler ainsi de mon livre. Je trouve que vous l'avez accueilli comme j'ai envie de le sentir accueilli par les autres. Je vais essayer de vous parler un petit peu au fond de mon parcours d'écriture qui brasse petit à petit des éléments assez diversifiés, en commençant par le conte. Parce que bien avant d'être analyste, j'étais d'abord étudiante et j'ai découvert avec étonnement un conte dont parlait un des profs à l'époque. C'était à la fac de Vincennes, on était tout mélangé, tous les gens de tous les continents, de tous les âges, de tous les milieux, c'était assez extraordinaire. Et quelqu'un s'est mis à nous parler d'un conte dans lequel les personnages crachaient des perles et des diamants en parlant, et puis un autre personnage crachait des vipères et des serpents. Et donc j'ai eu envie d'aller y voir, et ça a probablement fait résonance avec ma propre analyse qui était en cours à l'époque, et du coup je me suis mise à m'intéresser au conte, dont j'avais pas une connaissance particulière, mais enfin quand même je me suis rappelé que quand j'étais petite, on m'en avait quand même lu, puis on m'avait quand même donné des livres, et puis j'avais écouté, lu plutôt, dans une très belle édition cartonnée en relief, les contes de Perrault, qui était chez une professeure de violoncelle, chez qui allait mon frère, et du coup, pendant ses leçons de violoncelle, je lisais les contes de Perrault, j'étais émerveillée. Et donc c'est avec les contes que j'ai fait tout un parcours à la fois universitaire et à la fois dans le prolongement de ma propre analyse et en même temps des débuts de mon écriture. Et il s'est avéré que le conte m'a permis petit à petit de sortir d'un type d'écriture au départ un peu universitaire avec des règles de fonctionnement particulières Mais quand même, le conte est un objet pas très sérieux vis-à-vis d'autres thèmes de recherche à l'université. Donc ce côté pas très sérieux, justement, est très précieux pour pouvoir prendre des lignes de traverse et aborder les choses un peu sous un autre angle qu'un angle trop intellectuel ou trop... en tout cas trop intellectuel pour moi. On est obligé de passer par l'expérience, de passer par... pas seulement les spécialistes, mais aussi ceux qui utilisent le conte dans leur quotidien, parents, enfants, etc. Et donc d'aborder les choses par des biais très divers. Alors, après avoir donc écrit universitairement une thèse, tout ça, j'ai eu envie de creuser les choses avec un conte, Le Petit Chaperon Rouge. Bon, sans doute, il me parlait très spécifiquement, mais aussi parce que c'est un conte connu de tout le monde. Sans arrêt repris, réécrit dans de nouvelles versions, et avec lequel il y a tellement de richesses selon qu'on le regarde sous l'angle un peu ethnologique et de ces versions orales et de leur transformation, du rôle qu'elles ont joué dans les sociétés où il a été raconté, aussi bien que si on le regarde du point de vue littéraire, qu'on regarde comment il a été écrit, réécrit par des gens comme Perrault, les frères Grimm, ensuite des adaptations pédagogiques, mais aussi dans des contes plus directement littéraires. Et puis, comment ce conte continue à se transformer de nos jours avec le cinéma, la BD, etc. Donc il est toujours vivant parmi nous, malgré son côté apparemment un peu anachronique, un peu peut-être aux yeux de certains un peu gnangnan, un peu oui bon d'accord les histoires de grand-mère et de petite fille. En fait, quand on regarde ça de près, c'est tout à fait passionnant. Donc je me suis lancée là-dedans et finalement, après avoir exploré Le Petit Chaperon Rouge, on va y revenir peut-être après, j'ai voulu m'arrêter plus particulièrement sur la façon dont les contes parlent de la famille et des relations au sein de la famille. Parce que finalement, c'est beaucoup dans les contes merveilleux des histoires d'enfants abandonnés, de parents qui manquent d'argent pour élever leurs enfants, d'enfants adoptés, de rivalités entre frères et sœurs. Bon, tout un panel de situations familiales extrêmement riches là aussi. Même si ça se présente dans des contextes éventuellement différents d'une autre aujourd'hui, on retrouve bien tous les affects et toutes les relations familiales des plus crues aux plus agréables. Mais la crudité est bien présente jusqu'au meurtre, hein, jusqu'à la mort, jusqu'à des rivalités mortifères. Et donc ça m'a donné envie d'écrire tout un livre sur nos représentations de la famille, à la fois à travers les contes, mais aussi à travers la littérature. Donc je me suis arrêtée sur, particulièrement sur Émile Zola dans les Rougon-Macquart, le dernier livre qui s'appelle Le Docteur Pascal, où il y a un rapport à la généalogie, à la construction un peu fantasmatique d'une généalogie et comment ça se transmet. Et Zola raconte ça d'une façon vraiment extraordinaire, ça m'avait fascinée. Et puis, en même temps, j'ai regardé tout ce que les historiens nous racontent de la transformation de la famille jusqu'à nos jours, aussi bien dans nos pays européens et comment la structure cellulaire de la famille n'a pas du tout toujours été là, ça a été tout à fait autrement auparavant, et aussi bien quand on regarde un peu les familles, les structures familiales à l'étranger, loin dans d'autres continents, on voit bien qu'il y a des règles communes, c'est-à-dire même si c'est pas... par exemple, l'interdit de l'inceste, comme on l'a ici entre les parents, les enfants, etc. Il y a toujours des règles qui sont très définies d'alliance, de parenté, avec qui on a le droit de se lier et pas s'allier et ceux avec qui c'est interdit. Et donc, il y a toute cette transmission des règles que je trouve très intéressante à connaître, même si elles sont différentes d'un continent à l'autre. Il y a toujours des règles. Et puis, j'ai mis ça en relation un peu avec ce que je commençais à entendre de mes patients et en voyant aussi certaines choses un peu qui reviennent régulièrement dans la façon dont les gens parlent de leur famille et dont certains se servent aussi de figures prises dans les contes ou dans la mythologie. Et j'ai trouvé ça intéressant de faire jouer tout ça ensemble faire jouer aussi parce que ces questions familiales, elles sont très présentes aussi dans nos jeux. Et c'est pour ça aussi que je me suis intéressée au jeu des sept familles. Parce que lui aussi, il peut sembler un peu anachronique aujourd'hui. N'empêche qu'on y joue toujours et qu'on réédite ou on édite de nouveaux jeux des sept familles avec des nouvelles compositions de famille. Et donc là aussi, c'est un peu comme le petit chaperon rouge, quelque chose qui continue à traverser le temps, à nous intéresser même si ça vient de très loin, et à nous apprendre beaucoup dans le cours d'un jeu sur ce qui est peut-être en jeu pour chacun des enfants qui jouent, ou des parents qui jouent avec eux, ou des grands-parents qui jouent avec eux, et comment en se distribuant des cartes qui sont supposées rassembler des familles, mais qui en fait sont distribuées avec des familles éclatées. Comment on fait pour essayer de les rassembler, de les garder ensemble? On les perd, hein, qui s'en vont et qui reviennent. On en demande d'autres. Donc il y a une règle du jeu là qui est tout à fait passionnante aussi à travailler et sur laquelle aussi j'ai beaucoup appris en regardant autour de moi, par exemple en prenant le train et en voyant qu'il y avait des gens qui jouaient au jeu des sept familles, donc je tendais l'oreille, ou des amis autour de moi qui me disaient « mais tu sais, ça y est, maintenant avec mes petits-enfants, on joue aux sept familles ». Donc j'ai collecté beaucoup d'expériences comme ça aussi qui m'ont confirmé que travailler sur le jeu des sept familles, c'était aussi quelque chose qui pouvait nous apprendre, même sur nos familles d'aujourd'hui. Alors tout ça a donné lieu à un deuxième livre, donc « Parenté à la renverse », avec cette couverture qui m'a plu, où on a un escabeau et on peut imaginer qu'on grimpe et on descend, on chute et on essaye de composer notre rapport à la famille, à la structure de la parenté. C'est un travail qui commence dès l'enfance, d'où le côté un peu enfantin de la couverture, mais qu'on n'a jamais fini de développer. Au fur et à mesure où on devient des adultes et où on devient soi-même parent, grand-parent, etc., ça se modifie. Et donc, dans ce livre, il y a un peu tous ces supports de ma réflexion pour essayer de parler de la famille aujourd'hui. Mais pendant que je l'écrivais, en fait, une éditrice du Seuil, des éditions du Seuil, m'a dit « Mais il faut que tu fasses un livre entier sur le jeu des sept familles et pas seulement un chapitre dans ton livre ». Et donc, je lui ai dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Et à l'époque, donc, je travaillais au musée de la carte à jouer, au musée français de la carte à jouer, à Issy-les-Moulineaux, que je vous recommande chaleureusement, qui est un endroit passionnant, à y aller aussi bien en famille, seul, en chercheur, en enfant, tout ce qu'on veut, et où il y a des collections de jeux des sept familles très riches, d'ici et d'ailleurs, de très loin et de très proche. Avec bien sûr des collections de jeux des sept familles parmi plein d'autres jeux de cartes. Et à l'époque où je m'y intéressais, aux jeux des sept familles, le musée venait de recevoir toute une collection de jeux des sept familles qu'il n'avait pas encore répertorié et analysé. Et donc j'étais très bienvenue pour défricher un petit peu tout ça avec eux. Et voilà, j'y ai beaucoup appris aussi. Et du coup, j'ai dit à l'éditrice que oui, il semblait que je pouvais essayer de faire un bouquin. Et ça a donné lieu à ce petit livre des éditions du Seuil. Celui-là, on peut encore l'acheter, le trouver en librairie. Comment ? Oui, oui. Cette famille à abattre, bon, c'est un peu percutant comme titre. Ça fait partie de la règle du jeu. Hein. On doit abattre les familles une fois qu'on les a composées. Donc, je me suis dit, allez, je prends ce titre. L'éditeur a accepté. Et il y a quand même un sous-titre, essai sur le jeu des sept familles, bon, qui peut préciser les choses. Et ce qui était très bien, c'est qu'on a pu donc utiliser des reproductions des jeux du musée d'Issy-les-Moulineaux, mais pas en grand, parce que faire un grand livre, bon, ça coûtait trop d'argent, etc. Donc elles sont toutes petites. Mais si on prend une loupe et si on a des très bons yeux, on voit bien ce qui est en jeu dessus. C'est très savoureux. Et là aussi, comme avec les contes, on voit comment les jeux de cette famille ont été utilisés progressivement dans des domaines extrêmement différents de ceux pour quoi ils étaient faits au début, et notamment des domaines publicitaires, ou bien aussi dans des domaines de promotion un peu d'une institution. Par exemple, l'Institut Pasteur a fait un jeu de cette famille parlant de, des différents métiers mis à contribution pour la recherche à l'Institut Pasteur. Donc on peut se servir de ces choses-là de multiples façons, pour des bonnes et mauvaises raisons. Mais, parce que je dis ça parce que les comptes aussi ont été utilisés dans des régimes, sous des régimes totalitaires, pour essayer de faire passer la propagande. Mais tous ces outils sont très malléables et donc se prêtent à différents usages conscients. Mais ça veut dire aussi qu'inconsciemment, on en fait plein de choses et qu'on aura beau essayer de calibrer notre façon de transmettre les comptes, de parler des jeux. C'est aussi plein d'autres choses qui vont passer à notre insu, inconsciemment, et qu'on ne pourra jamais contrôler ça, même si on essaye de canaliser comme on peut toutes ces transmissions. Alors, au fur et à mesure de ce travail, c'est vrai que j'avais un enseignement à l'université, donc ça c'était un support aussi de recherche important, et j'enseignais au début sur le compte, donc venait dans ce cours, c'était donc à Vincennes, où il y avait des gens des quatre coins du monde, des gens qui parlaient à peine français, des gens qui avaient connu le conte transmis oralement dans leur pays d'origine, et donc il y avait beaucoup, beaucoup à nous apprendre. Donc c'était un terrain d'expérience formidable, une forme d'enseignement très atypique, et donc au fur et à mesure, j'ai essayé d'intégrer cette dimension-là d'expérience vraiment vivante dans mon écriture. Et tout ça s'est brassé en moi petit à petit, avec aussi les débuts de mon expérience de psychanalyste, et donc l'envie aussi d'essayer d'intégrer tout ça dans ma façon d'entendre. Mais ça prend du temps, tout ça. C'est, au début, tout ça est un peu cloisonné, et puis progressivement, j'ai essayé enfin, ça s'est fait aussi involontairement, d'intégrer tout ça dans mon écriture. Et c'est un peu ça que j'ai essayé de faire dans le dernier livre, Rue Freud, où à la fois je m'appuie de façon assez directe sur des expériences cliniques avec des patients, mais en essayant de respecter une confidentialité, ce qui n'est pas très commode, mais ce que j'ai essayé de faire, notamment en parlant à la première personne, et donc en essayant de dire comment ma pensée navigue à partir de quelque chose qui est amené par l'autre. Et non pas pour m'exposer moi et raconter ma vie, mais pour dire un peu comment le processus de pensée, le processus associatif se met en route et est mis à contribution pour entendre quelque chose de ce que l'autre me dit. Et donc dans ce livre Rue Freud, j'ai aussi utilisé aussi bien ce que m'apportent les patients, ce que m'apportent les contes, la découverte d'épisodes, en effet, dans la Bible, dans la mythologie, etc. Et puis, je me suis aussi beaucoup appuyée sur l'histoire, les travaux des historiens, parce que je travaille toujours avec leurs travaux, c'est important pour moi, et notamment pour aussi entendre certains éléments de ce que amènent les analysants quand c'est pris dans l'histoire avec un grand H, et que c'est quand même important pour l'analyse d'être au courant un peu de cette histoire-là. Parfois, ça rencontre aussi l'histoire que je connais, ou par exemple dans Freud, que je connais, bon, à mon niveau, la guerre d'Algérie, et ça m'a aidé quand même à entendre des tas de choses, peut-être que j'aurais moins entendu si j'avais été moins concernée par cette histoire-là. Et dans cette écriture-là, il me semble, enfin bon, ça, chacun le sent comme il veut, que j'ai pu quand même... à mes yeux en tout cas, mieux marier tous ces fils que je tisse dans ma pensée en permanence, même quand je marche, même quand je fais mon marché. Je pense pas de façon volontaire tout le temps à mon travail, mais ça vit sans arrêt, ça fait des rebonds. Et quand je tombe sur la rue Freud, je sans l'avoir cherché du tout, je trouve ça génial, quoi. J'en fais quelque chose, forcément, parce que c'est presque comme si c'était magique, une rencontre... tombée de je ne sais où, qui était prévue. Et la pensée magique, elle permet aussi d'accueillir les choses d'une façon intéressante. Voilà, donc tout ce parcours d'écriture, finalement, il n'est pas fini. Je ne sais pas du tout ce que je serai amenée à écrire pour la suite, Mais d'ailleurs, je prévois jamais d'écrire un livre sur telle chose. C'est plutôt au fur et à mesure de mes travaux, mes découvertes, je me dis, tiens, mais là, j'ai collecté pas mal de choses. Je pourrais peut-être voir si ça pourrait faire un livre et comment ça pourrait faire un livre. Et donc, au fond, peut-être que je pourrais maintenant vous dire un peu plus de choses sur le conte. En partant d'une découverte que j'avais faite, qu'on m'avait conseillée, un professeur m'avait conseillé à l'époque où je travaillais sur ma thèse, et m'avait dit, vous devriez lire Pierrette Fleutiot. Et donc, beaucoup la connaissent, mais parmi ses nombreux écrits, ses nouvelles, etc., il y a un recueil qui s'appelle Les Métamorphoses de la Reine, et qui est un recueil de nouvelles initié par sa réceptivité au conte de Perrault, à un moment où, dit-elle, elle n'allait pas bien, bon, je suppose qu'elle faisait un passage dépressif, elle ne pouvait plus rien lire, tout lui insupportait, et que la seule chose qui lui restait agréable à lire, c'était les contes de Perrault. Et que ça l'avait en effet remise certainement sur une voie de guérison, peut-être c'était pas magique et c'était pas la seule chose, mais en tout cas, ça l'a accompagnée pendant ce moment difficile, et elle a pu en faire quelque chose, c'est-à-dire en faire une écriture, qui est bien de Pierrette Fleutiot, mais où on reconnaît ici et là les contes de Perrault et la façon dont elle se les est appropriés et ce qu'elle en a fait. Et c'est assez extraordinaire parce que d'une part c'est très très bien écrit, d'autre part elle a une liberté avec ses contes, elle s'autorise à en faire des choses à sa façon, mais c'est pas uniquement par fantaisie gratuite, c'est qu'elle en fait quelque chose qui vient... Elle a été rencontrée intimement par ses contes et elle essaye d'en écrire quelque chose, de nous en restituer quelque chose de ce que son intimité a pu recevoir à travers les contes de Perrault. Et tout est formidable, mais il y a notamment ce qu'elle a fait du petit chaperon rouge dans un assez court passage où il s'agit en fait du conte du petit Pousset. Ça marche bien là, ça ne, c'est pas... Ouais. Et en fait, elle a donné toute une extension au personnage de la femme de l'ogre, qui dans le conte de Perrault, bon, bien sûr, elle protège les enfants, elle essaye de faire quelque chose, mais enfin, elle n'est pas très développée. Et elle en fait un personnage central, un personnage de femme tout à fait passionnant. Et elle met en scène une situation de couchage des enfants. Le soir, on leur raconte un conte dans beaucoup de familles. Voilà. Et donc, elle va se retrouver, la femme de l'ogre, à essayer de raconter le petit chaperon rouge à ses enfants. Sauf que les 7 filles de l'ogre, elle les appelle des petites ogrelettes. Et donc, ces petites filles, elles sont déjà très marquées par leur père. Donc, la femme de l'ogre est supposée ne pas être une ogresse. En tout cas là dans le récit de Pierrette Fleutiot, et on sent que la mère se bagarre pour que les petites ne deviennent pas des ogrelettes, mais c'est très difficile. Alors le conte du petit chaperon rouge justement, il était très 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 dangereux pour raconter un conte jusqu'au bout sans être interrompu par les instincts ou les idées très audacieuses des filles. Alors, je vais vous en lire un extrait. Un petit passage. Alors, lorsque les petites ogrelettes sont toutes au lit, elle entreprend de leur raconter un conte. Il était une fois une petite fille de village. Sa mère et sa mère grand, qui en étaient folles, lui avaient fait faire un petit chaperon rouge. « Rouge comment ?» s'écrient les ogrelettes. « Coquelicot !» dit la mère, pensant au bord des chemins et aux fleurs qu'elle aime. « Non !» disent les enfants. « Fraise ?» dit la mère, pensant aux surprises de ses promenades dans les champs. « Non !» disent les enfants. « Tomate ?» dit la mère, voyant ses plantations secrètes dans la clairière. « Horreur !» crient les enfants. « Pour qui, la tomate ? et comme les épinards pour d'autres. Cerise, dit la mère, regardant à la fenêtre le rideau imprimé de petites taches roses. Ridicule, crient les enfants, presque étranglés de rire. Et comme la femme égarée se tait un instant, les enfants aussitôt se mettent à crier. Sans deux bœufs, sans deux taureaux, sans deux bœufs, sans deux taureaux. La femme soupire et reprend son récit. Sa mère et sa mère grand lui avaient fait faire un petit chaperon rouge sans. Un jour, sa mère ayant cuit et fait des galettes, « Pouah, pouah !» crient les enfants. « Quoi ?» dit la mère. « Pas des galettes, pas des galettes !»« Quoi ?» dit la mère. « Des belettes, des belettes !»« Ah !» soupire la mère. « Attrapez et dépouillez !» disent les enfants. Un jour donc, sa mère, ayant attrapé et dépouillé des belettes, lui dit « Va voir comment se porte ta mère grand !» Et porte-lui cette belette et ce petit pot avec le cœur. Bien, bien ! Applaudissent les enfants. La femme, heureuse de voir leur visage illuminé, continue. En passant dans le bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger. Non ! Crient les enfants. Quoi encore ? Dit la mère. Compère le loup, qu'elle eut bien envie de manger ! Crient les enfants, debout d'excitation dans leur lit. « Assise, dit la mère, ou je ne continue pas. » Les enfants se rassoient et elle continue. Elle rencontra compère le loup, qu'elle eut bien envie de manger, mais il n'osa pas. Mais elle n'osa pas. Mais elle n'osa pas. À cause de quoi ? Crie l'une des ogresses. À cause de quelques bûcherons qui se trouvaient là, répond l'une. À cause de sa mère grand qui l'attendait, dit une autre. À cause de sa mère qui l'avait défendue, dit la plus jeune. Qu'elle les mange tous alors, crie la voix stridente de l'aînée. À ces mots, les ogresses regardent leur mère, leurs petits yeux ronds et opaques sont posés sur sa peau tendre, sur son cou chiffonné, sur ses seins que l'on voit parce que la lune rend transparent son corsage, sur ses bras meurtris par le taureau c'est son mari, l'ogre. Les enfants se taisent et leurs yeux fixes ne bougent pas. La mère, troublée, murmure. Il ne faut pas manger les loups. Puis, aussitôt, inquiète, elle reprend. Il ne faut pas se laisser manger par les loups. Puis, perdue, il faut manger ce que l'on doit. La mère sent que des chemins familiers se mêlent dans sa tête, elle ne sait plus quelle direction prendre, des peurs la guettent de tous côtés, les yeux des ogresses sont comme des pastilles immobiles collées sur sa peau, une grande fatigue lui vient, pour un peu elle se laisserait glisser sur le sol, abandonnant tout, s'abandonnant à tout ce qui pourrait arriver. Avec effort, elle reprend le compte. La petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, des fauvettes, disent les ogresses. S'amusant à cueillir des fauvettes et courir après des papillons, après des hérissons, disent les ogresses, et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elles rencontraient, et à faire des bouillies de petites limaces qu'elles rencontraient. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Erreur, dit l'aîné. Elle est arrivée avant lui, et vous savez pourquoi, mes sœurs ? Parce qu'elle avait pris les bottes de l'ogre, répondent les autres. Bravo, dit la plus jeune enthousiasmée, et elles se mettent toutes à applaudir. La mère les voit si gaies, assises dans leur lit et battant des mains comme le font les enfants. Sa lassitude s'éloigne, un peu de joie lui revient, une joie usée et lacérée comme une vieille illusion, mais elle n'a jamais jeté pour de bon, et qui revient maintenant l'envelopper, faisant usage une fois de plus le temps d'un moment. Elle veut raconter un conte à ses enfants, elle veut, avec une endurance increvable, être là dans cette chambre où sont alignés 7 petits lits et parler doucement dans la clarté diffuse de la lune, tandis que le rideau bouge doucement à la fenêtre devant l'ombre du cerisier et que la pièce se dilate et se resserre au rythme de toutes ses petites respirations attentives, comme une grande poitrine chaude qui les porte toutes, elle et ses enfants. « Je reprends, » dit-elle. La petite fille, arrivée la première, raconta sa rencontre à sa mère grand. « Mets ta belette, tes fauvettes, tes hérissons et tes limaces sur le seuil pour que le loup les mange, » dit la mère grand. « Ainsi, il n'aura plus faim et s'en ira. »« Non, non !» crient les ogresses. « Je ne comprends pas, » dit la mère. « Elle veut manger le loup, » murmure la plus jeune. « Et le manger bien gras !» crie l'aîné. « Ah, j'avais oublié !» dit la mère. « Vas-y, vas-y !» disent les ogresses. « Oui, oui !» dit la mère. La petite fille se mit dans le lit avec sa mère grand. Et, lorsque le loup arriva, elle se jeta sur lui. « Non, non !» crient les enfants. « C'est pas ça !» dit la mère, regarde. « les détails !» disent les enfants. « Je vais raconter !» dit l'aîné. Le loup, ayant mangé tout ce qu'il y avait sur le seuil et se sentant l'appétit bien ouvert, vint se mettre dans le lit près du petit chaperon rouge, déguisé en grand-mère. Il fut bien étonné de voir comme cette mère grand était faite en son déshabillé. « Mère grand, lui dit-il, quelle jolie farce sur vos yeux !»« C'est pour te séduire, petit loup !» crient aussitôt toutes les sœurs, moi la plus jeune. « Et quel joli rouge sur vos lèvres !»« C'est pour t'embrasser, petit loup !»« Et quel joli bras !»« C'est pour te serrer, petit loup !»« Et quel joli sein !»« C'est pour t'exciter, petit loup !»« Taisez-vous, dit la mère !»« Il est temps de se coucher, et voici la fin du conte !» « Mère grand, dit le loup, que vous avez de jolies dents pointues. C'est pour mieux te manger, petit loup. » Et disant ces mots, cette méchante petite fille se jeta sur le petit loup et le dévora. Les ogresses sont très mécontentes de cette fin, mais ne sachant expliquer pourquoi, elles se laissent mettre au lit. Leur mère remet bien droit les pointes de leurs cheveux qui se sont tout courbés pendant le récit, tire le rideau sur la lune et s'en va, froide et sans pensée. Un beau texte. C'est très, très cru. Et justement, ça m'a plu parce que c'est une crudité à la mesure des contes qu'on n'a pas toujours à l'esprit. C'est-à-dire que, comme les contes circulent beaucoup auprès des enfants, on a tendance à se dire, bon, faut peut-être pas trop aller pas trop fort et donc édulcorer un peu ou en tout cas éviter certains passages. Et en fait, on croit que les contes, finalement, sont, si on n'a pas trop creusé la question, on croit que les contes sont des histoires un peu banales, un peu à l'eau de rose pour les enfants, les contes merveilleux. C'est pas du tout le cas. Et même s'il y a souvent des fins heureuses, c'est pas toujours le cas. Et dans la version Perrault, ce n'est pas du tout le cas. Mais on voit bien que les frères Grimm, ils ont un peu tergiversé avec le conte de Perrault. Donc, ils ont ajouté des choses qui existent aussi dans la tradition orale, mais enfin, qui n'étaient pas forcément là dans la version dont ils ont eu écho. Et puis, dans nos façons de censurer les contes dans de bonnes intentions, finalement, on évite parfois... à ceux qui les écoutent, enfants ou adultes, de s'approprier certaines scènes, certaines séquences, certains personnages qui justement vont toucher au vif de nos questions les plus crues ou les plus aiguës liées à la vie, la mort, le sexe, les relations affectives, l'amour. Et donc tout ça est très présent dans les contes. On y va parfois carrément dans les contes, hein, sans détour. Et pourtant... Le conte repose sur des métaphores, sur des images, sur des choses qui nous laissent rêver. C'est jamais clos, sauf à la fin. Bon, voilà, il y a la pirouette finale pour finir le conte, mais on sait bien que ça continue dans les têtes. Et à propos de l'aspect guérison, sans aller chercher des situations où on est vraiment malade, mais simplement les situations où on est mal en point, dépressif, on n'est pas content, on est énervé, le conte peut venir nous emmener, nous prendre par la main et nous emmener dans des histoires qui nous parlent du fond des choses mais d'une façon un peu détournée, avec un pas de côté, avec on traverse le temps, on se retrouve dans un autre temps, dans une autre époque, dans un autre pays, dans un pays imaginaire, et ça permet de faire baisser la pression qu'on a sur soi à partir de notre quotidien. Et pour ce qui se concerne des situations alors plus de maladie mentale ou d'état psychique très difficile, très douloureux, les thérapeutes qui travaillent, ce qui n'est pas mon cas, en tant que thérapeute avec des patients, se sont rendus compte que avec des enfants psychotiques par exemple, il est beaucoup plus important de prendre des versions orales non édulcorées pour essayer de toucher les enfants avec des histoires qui vont leur permettre de raisonner, on ne peut même pas forcément parler d'identification, mais de raisonner à certaines situations qui sont très fortes, qui mettent le corps en jeu d'une façon très extrême, et donc qui entrent en résonance avec ce qu'ils vivent de façon extrême avec leur propre corps, où les limites sont perdues, où les interdits ne sont pas vraiment posés. Et le conte permet de s'embarquer par le récit dans des situations qui finalement vont être canalisées à la fin, mais en étant passées par des choses aussi dramatiques que ce que vivent les personnes ou les enfants intérieurement dans leur imaginaire. Donc, à condition que ce soit évidemment encadré, canalisé, ce sont des outils thérapeutiques tout à fait précieux. Mais d'un autre côté, ce serait dommage de croire qu'on peut canaliser le conte, comme je disais tout à l'heure, d'une façon très 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 méthodique et maîtrisée. Non, ça va toujours déborder, et c'est peut-être plutôt, en tout cas quand on est dans un cadre où c'est assez fragile au niveau des enfants, après le récit du conte, on peut poursuivre pour accompagner les enfants avec les images qui sont venues en eux. Il y a tout un travail thérapeutique formidable qui se fait dans les services. Alors, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que, avant qu'on débatte, c'est que on a, à l'époque où je commençais mon enseignement à l'université, était sorti le livre de Bruno Bettelheim. J'ai oublié son titre du coup. Psychanalyse des contes de fées. Et qui était un livre que, à l'époque, je travaillais avec les étudiants. Et alors, c'était très frappant de voir que, pour certains, ce livre était formidable et les avait ouverts à plein de choses. Et pour d'autres, ce livre était odieux parce qu'il avait désidéaliser enfin toute leur vision du conte et que vraiment ils auraient préféré ne pas l'avoir lu, etc. Donc ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que je me suis dit voilà un livre qui peut-être produit du meilleur et du pire, bon, dans lequel il y a des a priori aussi, bon, il y a l'expérience de Bettelheim qui est incontestable, enfin il a une façon de parler de Perrault avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Et puis, à côté de ça, il a une façon, il voulait essayer d'écrire un livre un peu de vulgarisation. Donc, il a tendance parfois à utiliser l'interprétation, le terme interprétation à l'appui de la psychanalyse, d'une façon un peu rigide et qu'on pourrait être tenté d'appliquer comme une formule. Et ça a fait du mal sûrement. Mais bon, on peut revenir là-dessus, on peut en parler, on peut essayer de voir les choses autrement. Et donc, ce qui m'a semblé très intéressant, c'est de remettre en relief l'intérêt du processus interprétatif dans nos têtes, donc du processus associatif, sans vouloir lui attribuer des conclusions définitives et qui seraient détentrices de la vérité unique et incontestable sur l'interprétation de tel conte. D'en faire plutôt un mouvement, comme vous le disiez tout à l'heure en présentant le livre. Nous avons tous une capacité de mouvement avec les histoires, les contes et aussi les autres, qui, elle, est très riche et précieuse. Et de pouvoir partager là-dessus, c'est beaucoup plus riche que d'aller dire, bon, voilà, le petit chaperon rouge, la couleur rouge, ça veut dire ça, etc. Ce serait vraiment dommage parce que, du coup, là, on coupe le processus qui appelle, le conte, ça appelle à être re-raconté, retransmis, à continuer son voyage. Donc, ça serait vraiment dommage de l'arrêter. Voilà, c'est ça qui m'a un petit peu guidée avec le conte. Et je pensais, quand j'ai écrit, après avoir écrit Parentèle à renverse, je pensais en avoir un peu fini avec le conte, j'allais passer un peu à autre chose, notamment à la mythologie, parce que je voulais m'y attarder un peu plus. Bon, là-dessus, l'éditrice du Seuil, qui m'avait fait publier le jeu de cette famille, me dit qu'elle a reçu une collection de faire part de naissance. Et que les collectionneurs seraient assez intéressés à voir... donc leur collection publiée, ou en tout cas en partie publiée, mais aussi un texte accompagnant la collection. Et donc l'éditrice, Martine Lafont, qui était par ailleurs éditrice de livres pour enfants au Seuil, m'a demandé si je pouvais faire un texte à partir des collections présentées par ces collectionneurs. Donc j'ai proposé un peu un synopsis. Et puis finalement, ça n'a pas collé entre l'éditeur et les collectionneurs. Et du coup, ce livre-là ne s'est pas fait, mais un autre s'est fait. C'est-à-dire que Martine Lafont m'a dit, mais on va le faire quand même, ce livre, avec nos collections de faire part de naissance qui appartiennent au Seuil. Et tu essayes de faire un texte à partir de cette collection. Donc, je me suis mise au travail. Et j'en ai fait un livre, non pas sur les faire part de naissance, mais... sur nos représentations de l'enfance, cette fois-ci, et non plus seulement de la famille, à travers nos faire-part de naissance. Et qu'est-ce que ça dit de notre rapport aux enfants, de notre rapport à l'enfance, de notre rapport aux origines, de la façon dont nous parlons aux enfants et à d'autres, de notre désir d'avoir des enfants et d'annoncer la naissance de nos enfants, etc., etc. Et... en prenant des faire-part de naissance anciens et puis en voyant aussi comment ils évoluent, se transforment jusqu'à aujourd'hui. Et donc l'angle d'approche, c'est pour ça que je l'ai appelé faire-part d'enfance et non pas de naissance, enfance au pluriel, pour essayer de, là aussi, de faire jouer un petit peu nos représentations de la famille et de l'enfant et de l'enfance, dans la mesure où à travers l'élaboration de faire part de naissance, au fond, nous remobilisons ce qu'a été l'enfance en nous, ce qu'ont été nos façons d'accueillir des enfants derrière nous, quand on était enfant, pour ceux qui en ont eu, des petits frères et sœurs, et puis tout ce rapport à l'enfance qui fait partie de notre histoire, de notre expérience, et qui se renouvelle, qui est réactivé, quand on est parent et qu'on se trouve devoir annoncer la naissance des enfants. De même, quand on reçoit des faire-part de naissance de notre entourage, quand on recevait, parce que maintenant ça se fait beaucoup par Internet, nos réactions devant la façon dont certains faire-part sont faits, et après avoir publié le livre, des personnes m'ont dit « Voilà, moi j'ai reçu tel faire-part, qu'est-ce que vous en pensez ?» etc. Et c'est vrai qu'il y a de tout, de tout, de tout maintenant. Et alors, à l'époque, j'avais... peut travailler sur Internet, mais maintenant, ça continue de prendre des formes extraordinaires. Et voilà, ça, c'est très instructif sur ce que nous faisons avec des choses qui sont intimement liées à notre enfance, à chacun. Et là aussi, peut-être que nos tendances à juger rapidement, tiens, ce faire par là, il est ridicule, ou celui-là va faire du mal aux enfants, ou celui-là, etc., peut-être que c'est pas non plus forcément que ça, peut-être que cette réaction que nous avons, elle est liée à notre expérience et que d'autres vont le recevoir très différemment et que même si par exemple aujourd'hui c'est les enfants qui font part de la naissance d'un petit et pas les parents, c'est pas forcément signe qu'on a perdu l'ordre des générations, tout ça. Ça peut être un jeu, ça peut ouvrir à d'autres pistes. Donc moi il me semble que il ne faut pas trop s'affoler, même si on est un peu affolé par le tour de certaines choses. Ça bouge beaucoup. Quoi. Et ce mouvement-là, il est peut-être le mouvement de la vie. Et ça, c'est quand même assez précieux de voir comment les choses se transforment. Elles ne sont pas bloquées. Et quand on a l'impression que quelque chose est fini, finalement, ça reparaît autrement, on se resserre de vieilles choses, elles réapparaissent sous une autre forme. Donc voilà, c'est un jeu extrêmement vivant. Je n'ai pas d'exemplaire là de faire part d'enfance, regarde là-bas. J'ai été en tout cas moi-même très... j'ai appris beaucoup de choses en regardant tous ces faire part de naissance, des choses tout à fait imprévues. Et je trouve que c'est une expérience qui renouvelle nos représentations, qui contribue à les renouveler. Donc c'est passionnant et à écrire et à regarder. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour le moment. Et puis qu'on va peut-être essayer de reprendre certaines choses que vous auriez envie de creuser en fonction de vos expériences peut-être aussi et de ce que vous avez envie de voir aborder autour de tout ça maintenant. Oui.
Je voulais, cet après-midi, j'ai entendu Tahar Benjimi écrire un livre sur les contes de Perrault. Mm. Et il a repris le thème du petit chaperon rouge pour l'appeler, alors je crois peut-être que j'écorche, mais enfin, c'est la petite fille au tchador rouge.
Ah,
parce qu'il a recentré ça sur l'Afrique et le monde musulman. Enfin, ça tombait.
Oui. Oui, ça c'est formidable. J'aurais bien aimé l'entendre, mais je vais le réécouter en replay ou je ne sais quoi, en podcast. Et le petit chaperon rouge, France Inter, d'accord. En effet, il existe aux quatre coins du monde aussi. Alors pas forcément avec un loup, pas forcément avec une petite fille, mais on retrouve tout à fait le motif d'enfants ou d'animaux mis en danger par un autre plus fort et qui est obligé de se débrouiller pour échapper à ce qui risque de le manger. Et cette thématique, de retrouver cette thématique-là un peu aux quatre coins du monde, c'est vrai que ça a fait réfléchir beaucoup les spécialistes pour savoir comment se fait-il qu'on retrouve les mêmes thèmes partout, presque partout, même s'ils sont un peu transformés. Est-ce que c'est parce que les contes ont été colportés et donc se sont beaucoup promenés? Ou est-ce que c'est parce qu'ils portent sur des éléments universels qui sont travaillés partout? Bon, il y a les deux hypothèses, et peut-être que les deux hypothèses sont valables, que les contes ont beaucoup circulé, mais que s'ils ont tellement circulé et accroché ici et là, c'est qu'ils s'accrochaient sur des thèmes qui sont partout présents. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de retrouver à la place du loup un tigre, ou à la place d'une petite fille, je ne sais plus, je n'ai plus en mémoire, mais enfin... Il y a beaucoup de cas de figure. Donc la fille au tchador, ça c'est une belle illustration.
Oui, j'aimerais savoir d'après vous quel impact ont ces histoires pour les enfants. C'est-à-dire, c'est des histoires assez horribles. Ils seront mangés, ils sont abandonnés par leurs parents. Qu'en pensez-vous?
On est tous là.
Oui, Madame de Vendée, on est tous là. Donc on a eu peur d'être mangé, mais on ne l'a pas été. Parfois on l'est quand même, mais c'est dans les cas quand même extrêmes. Moi je pense que on ne peut pas dire à l'avance quel effet ça a sur les enfants. On peut le constater quand on fait l'expérience et qu'on a un enfant précis devant nous qui nous dit, après avoir entendu un conte, ses réactions. Il y en a certains qui se ferment, qui ont eu peur, qui ont eu mal probablement, et à qui ça a été... effrayant, mais on a aussi l'expérience d'enfants qui ont eu peur à la lecture d'un conte et qui le redemandent quand même. Hein, donc il y a ce jeu entre l'envie d'avoir peur et en même temps pas envie, et puis il y a des frayeurs terribles pour des enfants. Bon, par exemple, s'il s'avère qu'on raconte quelque chose à des enfants très mal en point, on va peut-être quand même faire un tri, choisir un peu, y aller progressivement. Pas raconter tout de suite le conte de mon père m'a tué, ma mère m'a mangé. On peut peut-être commencer par autre chose. Et, mais ce qui est difficile, c'est pour nous adultes de choisir entre risquer un peu de blesser, de faire mal, de faire peur, et en même temps y aller pour toucher l'enfant là où il est prêt à accueillir des choses qui vont lui parler de ses propres peurs, qui elles sont là de toute façon. On ne va pas les inventer avec le conte. C'est ce que Bettelheim a très bien montré. Le conte va faire résonner des peurs qui sont déjà en lui. Donc, on peut jongler un peu en choisissant. Et on a plutôt intérêt à choisir peut-être de raconter des contes qu'on a envie de raconter à des enfants, plutôt que de raconter un conte sous prétexte qu'on a dit que celui-là, il allait faire travailler sur tel problème de machin dans la famille. Non, je pense qu'il vaut mieux parler d'un conte qui nous touche et puis le choisir en fonction de ça.
Donc je suis en première et je vais mon TPE sur les loups. Et je voulais savoir, qu'est-ce que selon vous, on représente les loups dans les contes?
Ça serait bien d'avoir deux micros parce que d'abord on va faire les questions.
Non, parce que j'avais envie de vous renvoyer la question. Pour vous, le loup, c'est quoi? On a quelques éléments historiques sur ce qu'a représenté le loup dans l'imaginaire à cause de l'animal réel. Mais en même temps, il a toujours été source de fiction, d'inventions diverses. Personnellement, je me refuse à dire ce qu'il représente, parce que je pense qu'il peut représenter des choses très 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 contradictoires, différentes, etc. Même si est accroché au loup l'idée que il peut s'attaquer aux humains. Voilà. Mais le loup, c'est devenu une espèce de signe de tout ce qui peut être dangereux, lié à la dévoration quand même. Mais à partir de là, on peut prendre des chemins vraiment multiples. Et encore une fois, dans le conte du petit chaperon rouge, le loup, dans d'autres contrées, est remplacé par un autre animal. Hein. Donc, c'est quand même très modulable. Mais voilà, quand on se demande que représente telle figure dans le conte, on n'a qu'à déjà se poser la question à soi-même. C'est intéressant d'associer dessus, de se dire, voilà, moi, ça me fait penser à ça, ça, ça. Et peut-être que c'est pareil pour l'enfant, ou peut-être que pas du tout. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on dit les historiens là-dessus? Qu'est-ce qu'on dit les gens qui s'occupent des animaux? Voilà, on a plein de choses à faire pour essayer de voir tous les chemins dans lesquels ça nous emmène.
Dans le conte, il y a eu une étape entre les années 65 et 80 qui a été l'appropriation de Walt Disney après en images visuelles, et il y avait un cérémonial familial qui emmenait les parents au Grand Rex avec le spectacle des zoos et tout, et le Walt Disney pour Noël. Et j'ai une mémoire forte de Bambi, donc qui perd sa mère, le père, et en fait, beaucoup de familles, je me souviens très, j'étais petite, hein, et beaucoup de familles étaient là, enfants, parents, et les parents se réjouissaient d'offrir ça à leurs enfants, et je suis sortie de ce film, d'abord en plus les images en énorme, le petit qui se retrouve, mais complètement pétrifié, triste, c'était la période de Noël, de tout ça, et ça reste ancré chez moi comme une période, parce qu'après ça c'est resté très longtemps en France et sur Paris, un cérémonial, on va voir le dernier Walt Disney pour Noël avec la féerie des eaux au Grand Rex, quoi. Et chaque fois, enfin, Blanche-Neige, enfin tout ce qui faisait une réinterprétation des contes européens était assez traumatisante.
Oui, je trouve que le conte déjoue vraiment tout ce qu'on attend de lui, souvent. Et quand on veut, quand on a des intentions, finalement, le résultat, il est parfois très déroutant. Ceci dit, les Walt Disney, c'est une adaptation aussi particulière, avec venant d'un milieu culturel différent. Donc, on peut être un peu choqué par certaines transformations. Mais, encore une fois, tant que ça n'est pas la seule lecture des contes, tant qu'on peut voir encore d'autres films qui font référence aux contes ou qui adaptent des contes, et qu'on peut continuer de trouver des versions des contes par ailleurs, c'est bien. Ce qui serait embêtant, c'est qu'il n'y ait plus qu'un type de lecture et qui voudrait tyranniser les autres en s'imposant systématiquement.
Mais c'est pas la même interprétation que le conte que l'on vous raconte dans le livre et où on peut imaginer les personnages. Là, on vous les met en
Il n'y a pas de liberté.
Oui, donc madame pose toute la question de la liberté qu'on a quand on nous raconte un récit avec le langage et quand on nous le raconte avec des images, que ce soit dans un livre illustré, dans une BD, dans un film. Et alors ça aussi, c'est tout un débat dont on parlait souvent avec les étudiants, avec des gens qui trouvent qu'en effet, les livres illustrés ou les films vous empêchent d'élaborer votre propre imagination à partir du récit. Alors, bon, moi, j'avoue que je n'ai pas de certitude là-dessus. Je ne suis pas sûre de ça. Je vois que pour certaines personnes, leur expérience a été que ça a bloqué quelque chose. Mais, bon, je vois que pour d'autres, c'est quand même très enrichissant. Et je pense à tout ce que dit, on parlait de Serge Tisseron tout à l'heure, tout ce qu'il dit du rapport aux images, on voit bien que ça dépend comment c'est introduit auprès de l'enfant. Et même si un enfant a été terrifié et est tombé en pleurs et tout devant un film, le fait de pouvoir reprendre ça après, ça peut tout à fait transformer cette expérience de pleurs en quelque chose de très bénéfique.
Oui.
Donc, en effet, on ne peut pas dire a priori que c'est bon ou mauvais, que c'est enrichissant ou destructeur. Je ne crois pas.
Je voulais savoir si vous étiez déjà penché sur la comptine, en fait, parce que vous parliez tout à l'heure de l'anachronisme des contes, mais il y a aussi l'anachronisme des comptines. Meunier Tudor, par exemple, je ne connais pas personnellement de Meunier actuellement. Je ne sais pas si ça existe encore comme profession, mais apparemment, on la chante encore en maternelle. Et je voulais savoir justement, pourquoi ne pas s'être penché sur la comptine, pardonnez-moi, qui est aussi quelque chose qui a une histoire évidemment culturelle, enfin l'histoire du Meunier, toujours, avec un contexte historique précis, et pourquoi on continue encore à la faire apprendre aux enfants. On continue à s'en servir un petit peu comme une morale de temps en temps. Pourquoi on chante encore le roi Dagobert sans jamais connaître qui il est vraiment? Pourquoi encore on fait encore étudier la comptine? Moi, par exemple, je suis étudiant en psychologie et j'ai une UFR qui consiste à la psychologie du conte, comme sans quoi vous êtes en train de parler, justement. Et pourquoi, justement, la comptine prend-elle encore une place très, très importante, et notamment dans l'enseignement cognitif des jeunes enfants?
Oui, alors voilà une belle question aussi. Pourquoi pas m'intéresser aux comptines, ou pas tout faire, hein, mais quand même, je me suis intéressée. Et alors, il y a plein de choses qui me viennent en écoutant votre question. D'abord, on élève les enfants avec des tas de choses qu'ils ne comprennent pas. Le langage, l'enfant, c'est pas inné, hein. Il baragouine des mots, il nous imite, il sait pas ce que ça veut dire, puis progressivement il apprend un peu le sens de tout ça. Donc effectivement, dans les comptines, il y a des tas de choses que l'enfant, dont l'enfant ignore tout, et peut-être les enseignants ou les psychologues et tout ça ignorent tout. Ça pourrait être l'occasion d'aller creuser un peu d'ailleurs. Mais je pense que notre patrimoine culturel, il est fait de choses multiples, imbriquées, de choses qu'on connaît, d'autres pas, de choses dont on ne sait plus du tout d'où ça vient, de choses dont on continue de raconter l'origine. Je crois que ça, c'est pas un problème. En revanche, ce qui est intéressant dans la comptine, c'est le chant, la voix, la mélodie, la façon dont la comptine mobilise le corps, mobilise tous ceux qui la chantent ensemble, dans quelque chose qui est rythmé. Et donc pour les tout-petits notamment, c'est extrêmement important parce que ça les convie complètement, encore esprit, émotion, etc. Puis ça convie les adultes aussi autant à participer, autant avec tout leur être et pas seulement cérébralement. Et sur ce plan-là, un point qui est quand même extrêmement important quand on pense aux contes, aux comptines, à toutes ces transmissions orales, qui étaient orales, qui continuent de l'être, même si elles sont aussi écrites, filmées, etc., c'est que ces choses-là se transmettent dans un certain contexte. Et en effet, il y a le contexte, par exemple, du coucher du soir, comme on le voit très bien là dans les Métamorphoses de la Reine, où il y a un rapport très proche entre le parent qui raconte et ses enfants, dans le lit, il y a un rapport au corps là, qui va s'endormir, les rêves vont arriver. Donc il y a toute une proximité physique qui est précieuse et qui est peut-être encore plus importante que le contenu de ce qu'on raconte. C'est un moment de partage où on est, voilà, on est mobilisé physiquement, intimement avec les autres. Et c'est peut-être cette capacité-là à faire exister des moments d'intimité comme cela qu'a le conte, la comptine, des chansons diverses. Cette capacité-là, elle est précieuse à transmettre. Peut-être plus encore que le contenu de ce qu'on transmet, parce que ça indique, ça donne l'expérience, plutôt qu'indiquer extérieurement, qu'on peut se, ben voilà, se mettre ensemble, se mettre dans un certain, une certaine disposition, les corps proches les uns des autres, et puis on va faire résonner les voix, on va entendre les respirations, tout ça va être vecteur de proximité, de sécurité, de partager un moment ensemble. Et ça n'est pas du tout qu'une affaire intellectuelle et de texte, en effet, c'est beaucoup plus que ça. Et les comptines, elles sont très proches du conte quand même, même si elles racontent des trucs lointains, bah les contes aussi. Et les contes, quand ils sont dits oralement, quand on peut se les approprier, nous invitent aussi à du balancement, du rythme, de quelque chose de la mélodie. Alors c'est plus difficile quand on le lit, mais quand même, le livre aussi peut faire partie de ce moment d'échange intime. Il faut pouvoir lui donner ce rôle.
Kilomètre à faire. Oui, dans votre expérience de thérapeute, est-ce que vous avez mis en scène, fait jouer des personnages, des contes par des adultes? Par exemple, jouer la sorcière, jouer l'ogre, le loup, comme le font naturellement les enfants dans les jeux, dans leur jeu.
Oui, alors ça c'est un aspect que je n'ai pas encore abordé. Est-ce que j'utilise le conte en tant que thérapeute? Je l'utilise directement quand le conte est amené par les patients, les analysants. Et c'est une expérience qui, ce sont des expériences qui là aussi m'ont beaucoup fait avancer sur le conte, c'est-à-dire que ça m'a emmené sur des terrains que je n'avais pas prévus. Je n'amène pas moi-même le conte, parce qu'en tant que psychanalyste, on a tendance en principe à pas trop amener les choses nous-mêmes, plutôt partir de ce qui est amené par les gens qui nous parlent. Et donc, si quelqu'un se met à me parler, par exemple... une patiente qui s'était mise à me parler de La Belle au bois dormant. Et elle me disait, oui, quand elle était enfant, elle entendait parler de ce conte de Perrault, La Belle au bois dormant, et que c'était vraiment une histoire merveilleuse, et tout ça. Bon. Il se trouve que cette femme, c'est une jeune femme, avait des choses à raconter de son histoire assez difficile, et notamment... il y avait des choses qui se passaient, dont probablement des secrets de famille, elle supposait, par rapport à la mort, par rapport à des ancêtres ou un ancêtre mort, et des choses qui ne se parlaient pas, qui faisaient un brouillage là, dans les transmissions familiales, elle ne comprenait pas d'où ça venait. Et quand elle m'a parlé du petit chaperon, de La Belle au bois dormant de Perrault, elle m'a dit que... elle s'était déjà beaucoup penchée sur ce conte et qu'elle avait déjà fait une première thérapie à une époque. Ils avaient beaucoup parlé de La Belle au bois dormant de Perrault. Et donc, comme il y avait par ailleurs cette atmosphère de mort sur laquelle elle essayait d'avancer, je lui ai posé la question, parce que je connais le conte de Perrault et pas forcément le conte des frères Grimm, je lui ai posé la question, est-ce que vous connaissez vraiment la version Perrault? Et elle m'a dit, bah oui, enfin on m'avait lu la version de Perrault. Je lui ai dit, vous devriez aller la relire dans un texte de Perrault, non censuré, vraiment la version de Perrault. Donc là, je suis intervenue, de façon, peut-être certains collègues trouveraient ça trop interventionniste, mais enfin bref, elle est allée lire la version de Perrault, la version originale qu'on trouve en folio, mais non censurée. Et donc, elle a découvert que La Belle au bois dormant ne s'achève pas sur le réveil de la princesse par le prince. Elle a vu qu'après, il se passait des drôles de choses, des choses horribles, d'une belle-mère voulant tuer ses petits-enfants. Donc, y a une suite là qui parle de choses horribles dont elle, ma patiente, n'avait pas conscience ou pas le souvenir. Peut-être qu'elle avait eu connaissance de cette version, mais qu'elle l'avait censurée inconsciemment. Et le fait d'avoir lu la suite du conte de Perrault lui a permis de commencer à aborder des situations où la relation entre mère et fille est trouble. On ne sait pas si c'est de l'amour ou pas, on ne sait pas s'il y a de la menace de la part de la mère. Et finalement, ça a été un tremplin pour elle pour aborder un peu des choses qu'elle n'osait pas aborder avant, parce que finalement, elles étaient quand même un peu abordées dans ce récit. Et c'est arrivé à d'autres patients comme ça de se servir de figures mythologiques, par exemple. Il y en avait un qui parlait d'un personnage mythologique, il savait plus très bien lequel, puis finalement il avait dit la Gorgone avec ses multiples têtes qui se renouvelaient. Alors ça lui permettait finalement d'aborder la place, non pas de la mère, mais des mères successives, de génération en génération, dans sa famille, et qui bouffait complètement tout ce qu'il y avait de masculin. Et lui, en l'occurrence, mais aussi son père, etc., qui leur donnait pas place. Et c'est pareil, cette figure de la Gorgone ou de l'hydre à plusieurs têtes, bon, c'était pas très précis dans sa tête, lui servait de tremplin pour parler de quelque chose de terrifiant et d'un peu diffus, dont on sait pas très bien exactement. Il n'y a pas une situation catastrophique qui pourrait être épinglée, mais un climat vraiment inquiétant, avec des choses qu'on ne peut pas trop nommer, mais qui sont nommées dans les récits mythologiques ou les contes, avec des personnages précis qui portent des noms et qui sont racontés. Donc je me sers des contes directement ou des mythes comme ça, quand c'est amené par un patient, ou peut-être qu'il m'est arrivé de dire à quelqu'un de lire tel conte, mais c'est pas forcément, j'ai pas trop ça à l'esprit d'ailleurs immédiatement. Et à l'inverse, dans Rue Freud, donc, je parle longuement de la femme de Lot, qui est issue, personnage issu de la Bible. Je pense que tout le monde la connaît plus ou moins, ou peut-être pas, je sais pas, enfin, peut-être pas forcément, voilà. Et donc, c'est un personnage de la Bible, Lot, qui à un moment doit s'enfuir. Alors je vous parle un peu je parle un peu en surface parce que j'ai pas trop les détails à l'esprit, mais il doit s'enfuir puisque la ville de Sodome, dans laquelle il vit, va être mise à feu par Yahvé, parce que on y a commis des péchés et pas accueilli les étrangers comme il aurait fallu. Et donc Lot doit s'enfuir avec sa femme et ses filles, et aller se cacher dans la montagne. Et en fait, ils ont reçu, Lot et toute la famille, l'interdit de se retourner sur la ville qui brûle, ou qui va brûler. Ils s'échappent, et en fait, la femme de Lot se retourne, malgré l'interdit. Et elle est aussitôt transformée en colonne de sel, en statue de sel. Et le récit de la Bible se continue, elle reste statue de sel, et le père, Lot et les filles se retrouvent dans la montagne, et puis il se passe des choses pas jolies non plus après, dont une patiente va m'obliger à aller regarder près ce que c'est, parce que quand cette patiente-là me parle de la femme de Lot, c'est à propos d'un rêve qu'elle a fait, où elle se sent menacée par une vague derrière elle qui va s'abattre sur elle. C'est un type de rêve que beaucoup de gens font, hein, beaucoup de femmes, avec une vague derrière elle qui les menace. Alors soit ça s'abat sur elles, soit elles ont peur, elles se retournent ou pas. Enfin, il y a des variantes multiples, mais c'est un rêve fréquent. Et cette analysante-là, elle l'avait fait souvent, ce rêve-là. Et donc, elle m'en parle souvent, en disant que elle se sent enfoncée dans le sol comme la femme de Lot pétrifiée. Elle ne sait plus très bien d'ailleurs si c'est la femme de Lot ou les filles de Lot. Et à chaque fois qu'elle fait référence à la femme de Lot parce qu'elle repense à son rêve, elle dit toujours je ne sais plus si c'est la femme ou les filles. Du coup, moi-même, j'avais un doute et je suis allée relire le passage dans la Bible et j'ai vu que c'était bien la femme de Lot. Mais que par contre, les filles, après, quand elles se sentent échappées dans la montagne avec leur père, elles couchent avec leur père. Et bon, bah, dans la Bible, il y a des tas d'histoires comme ça tout le temps. Alors, je me dis, tiens, quand même, il y a une histoire incestueuse, là. Peut-être que ça concerne ma patiente. Enfin, j'avais pas connaissance de quelque chose comme ça dans son histoire jusque-là. Et donc, quand même, un jour, je lui ai dit, vous devriez quand même aller relire le passage pour savoir si c'est la femme ou les filles. Et donc, elle est allée relire. Elle n'avait pas la Bible, elle est allée sur Internet, elle a vu qu'il était question de, des filles de Lot, mais pas de la femme. Enfin bon, bref, elle finit par trouver le récit. Et elle s'aperçoit que c'est bien la femme, et en effet que les filles, elles font des drôles de choses après, ça l'a profondément choquée. Et elle a essayé de trouver une interprétation de la suite qui la rassure quand même. Elle me disait, ben oui, mais les filles, forcément, il fallait qu'elles assurent la descendance. Donc, elles ont enivré leur père et couché avec lui pour assurer la descendance, puisqu'il n'y avait plus la femme. Bon, voilà, donc, pourquoi pas ? C'est d'ailleurs vrai. C'est vrai qu'elles ont assuré la descendance. Mais, quand même, ça parle de l'inceste. Et là, elle, évidemment, elle a retenu la situation incestueuse et elle s'est demandé pourquoi elle était allée rechercher ça, qu'est-ce que ça venait parler dans son histoire. Donc, c'est des pistes-là. S'il n'y avait pas eu ce récit, si moi j'étais pas allée y voir, si j'avais pas trouvé ça quand même intéressant à remettre en circulation, puisque ça avait été amené par elle, finalement il y a eu tout un dialogue qui s'est fait à travers la femme de Lot, drôlement intéressant, et dont j'ai essayé de rendre un peu compte dans mon livre, sans dévoiler l'histoire trop de la patiente. J'ai dévoilé un ou deux trucs, mais enfin bon, je lui avais dit, elle savait que je travaillais sur sa façon d'utiliser un exemple mythologique. Et que, bon, c'était quelqu'un dans le métier, elle pouvait très bien comprendre qu'entre collègues, on échange des situations pour travailler ensemble. Et je n'ai pas eu de nouvelles d'elle, elle n'est plus en analyse depuis longtemps, et elle ne m'a pas rappelé en me disant, vous êtes gonflée d'avoir utilisé mon truc. Bon, je pense qu'elle n'a même pas vu le livre, j'en sais rien. En tout cas, écrire, par exemple, tenter d'écrire quelque chose sur ce qui s'est passé là, dans ce moment de l'analyse, j'ai eu envie d'essayer. Je ne savais pas si j'y arriverais, parce que ça suppose de rentrer quand même dans un exemple singulier, donc de parler de quelqu'un qui n'est pas là pour contrôler ce que j'écris. Donc, là aussi, j'ai essayé de parler plus de ce à quoi ça me fait penser et de ce vers quoi ça m'emmène, qui n'est pas du tout forcément présent dans l'analyse, dans ce que j'ai partagé avec la patiente, mais qui m'a fait travailler. Par exemple, je suis allée au musée Rodin, parce qu'il y avait une exposition Rodin, et puis je suis tombée sur une femme de Lot, je ne l'avais pas prévu. Il y avait un dessin de Rodin, une aquarelle de Rodin, sur la femme de Lot, qui m'a vraiment impressionnée, qui n'était pas du tout comme j'aurais imaginé, moi, la femme de Lot. Et donc, ça m'a mise en ébullition. Et du coup, j'étais sûrement très ouverte à ce que cette patiente la ramenait autour de la femme de Lot, parce que cette femme de Lot l'intéressait, elle, vraiment. Elle lui faisait référence tout le temps. Et donc, j'ai écrit sur ce parcours que m'a fait faire quelqu'un, une patiente, sur la femme de Lot. Et ce motif du retournement, justement, du retour derrière soi, de l'interdit, je l'avais déjà rencontré dans les contes. Et j'avais déjà eu envie d'écrire dessus, j'étais déjà en travail avec et en recherche dans la mythologie. Et du coup, ça s'est mis avec le reste et ça a donné aussi un fil conducteur à mon livre Freud pour essayer de trouver une forme d'écriture qui parle de mon expérience de psychanalyste. Au lieu de dire le complexe d'Œdipe, les concepts théoriques un peu figés, de raconter plutôt comment ça travaille dans le vif d'une expérience analytique.
En vous écoutant, est-ce que je me trompe en me disant que ça peut devenir un outil métaphorique pour votre clientèle ou votre analysant, comme vous l'appelez, pour raconter son histoire de manière plus détachée, plus distanciée ?
Oui, je pense que c'est ça qui se passe dans beaucoup de cas. C'est-à-dire que, par exemple, elle, quand elle a lancé la femme de Lot, ou l'autre, quand elle a lancé la Belle au bois dormant, il se trouve que, bon, j'ai entendu et que donc ça leur a servi certainement à essayer d'aborder des choses difficiles à aborder, sachant que ces histoires, ces récits font partie de notre patrimoine commun. La Bible, on connaît plus ou moins, même si on mélange un peu tout dans sa tête et qu'on n'a pas lu la Bible intégralement, mais on a quand même quelques bribes et qui nous permettent d'aller y voir, de même avec les contes. Et je crois que c'est ce côté patrimoine partagé, patrimoine culturel partagé, qui est très précieux et qui contribue aussi à donner de ces cadres thérapeutiques, analytiques, une vision autre que le pur échange entre un thérapeute ou un analyste et son patient, avec l'histoire singulière de papa, maman, la bonne et moi, mais qui nous mettent au contact de la grande histoire aussi, des histoires qui circulent et que les artistes reprennent et que les romanciers reprennent et qui font partie de ce qui nous relie tous dans une communauté, au sein d'une culture partagée, et puis dans la communauté humaine. Et du coup, là, on peut penser aussi à tout ce qui se fait et s'est fait dans les situations extrêmes où les gens ont été tyrannisés par des situations totalitaires, et où, face à cette stérilisation de la pensée, de l'imagination et de tout ça, les restes de récits, de choses partageables avec d'autres issus de cultures différentes, issus de pays différents et dans des situations extrêmes peuvent nous aider à nous relier parce que tous ces récits-là abordent l'extrême de façon métaphorique en effet.
Quelle est la différence entre fable et conte d'un point de vue patrimonial justement?
Alors, c'est des questions un petit peu complexes, mais enfin, on va quand même déblayer un petit peu. La fable, c'est un récit écrit, littéraire, et avec une forme qui a en général une conclusion, une morale. Il y a des fables au XVIIe siècle, il y en a beaucoup plus loin dans l'Antiquité. Le conte, c'est plus compliqué de dire le conte, parce qu'il y a une tradition orale qui est millénaire, donc il existait... il existe depuis toujours le conte oralement. Et le fait d'écrire, voire de transcrire des contes, c'est très ancien aussi. Ce qui fait qu'on a tendance à quand même penser que le conte oral est premier par rapport au conte écrit. Mais on voit bien quand on étudie l'épopée de Gilgamesh, qui nous arrive par des bouts de tablettes qu'il faut déjà décrypter, traduire, etc., rassembler, essayer de rassembler comme un puzzle, on voit que déjà là, dans des restes extrêmement anciens, on raconte déjà une histoire. Alors, ce n'est pas un conte, mais c'est déjà quelque chose qui indique la nécessité narrative de l'humanité depuis toujours. Et ensuite, c'est devenu, la légende est passée... Enfin, l'histoire de Gilgamesh, qui est un personnage historique réel, s'est transformée en légende complètement fictive, idéalisée, transformée. Et on a coutume de dire, alors là je m'éloigne de la fable, mais que les mythes concernent plutôt des histoires, sont des histoires qui d'ailleurs étaient au départ transmises oralement et accompagnées de rituels, qui engageait tout le corps, danser, etc. Et que les contes concernent plus l'histoire familiale, l'histoire à l'échelle d'une communauté de gens qui vivent au sein d'une même, dans une même région, voire dans un même village, et que la transmission qui se fait dans les contes est plus à une échelle plus limitée que celle des mythes qui concernent l'humanité. Mais n'empêche que ça a navigué oralement et par écrit. Les Mille et une Nuits, par exemple, on avait tendance à dire elles sont transcrites par écrit après, à partir de choses orales, et en fait, les spécialistes disent que c'est pas aussi simple que ça, et que même quand on les transmettait oralement au début, elles étaient également transcrites comme, pas intégralement, mais comme aide-mémoire pour les conteurs. Donc, il y a un va-et-vient entre l'oral et l'écrit, probablement. Et les fables, Là, ce sont des formes littéraires de récits qui, par exemple, celles qu'on connaît chez Ésope autrefois ou dans le XVIIe siècle, les fables de La Fontaine et tout ça, sont issues de textes anciens qui étaient aussi eux-mêmes liés, issus de contes d'animaux et pas des contes merveilleux. Et les contes d'animaux sont extrêmement anciens aussi. Et donc les fables d'Ésope, tout ça, sont issus de contes d'animaux qui se transmettaient oralement et ont pris une forme écrite assez repérable et avec ses moralités. Et bon, dans les contes de Perrault, par exemple, il y a des moralités à la fin, mais ça, c'est l'apport de Perrault. Dans les contes de tradition orale, on ne disait pas une moralité, même si éventuellement on pouvait plaisanter sur l'histoire à la fin, mais la moralité, c'est probablement chez Perrault, sous l'influence justement des fables, et ce qu'ils écrivaient tous aussi des fables, de donner un peu un contenu comme ça qui donne au conte une autre dimension. Pour Perrault, il faut savoir que, on ne le sait pas toujours, mais que si on s'intéresse à Perrault lui-même, c'était un homme politique et que l'écriture des contes s'est faite à un moment où il s'est retiré de la cour de Versailles, déçu par beaucoup de choses, et ayant perdu sa femme. Et il s'est orienté à essayer d'écrire des contes. Alors certains, comme Le Petit Chaperon Rouge, Le Petit Poucet, qu'il a entendu ou que son fils a entendu raconter, et d'autres repris dans des textes de contes issus notamment des conteurs italiens anciens et qu'il a réécrit à sa façon avec tout un discours politique qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas saisir si on ne connaît pas toute l'histoire, mais il y a des gens qui se sont penchés là-dessus, notamment un littéraire, un historien de la littérature et philosophe, Louis Marin, qui a publié des livres très importants sur le XVIIe siècle et qui montre comment, à travers certains contes, le discours de Perrault s'adresse vraiment à la cour, aux gens de la cour de XIV, à travers des histoires qui semblent anodines. Mais avec l'éclairage apporté sur le sens de certains mots et sur la façon dont Perrault avait vécu certaines expériences à la cour, on entend que finalement il a essayé de faire passer des choses à travers les contes, qu'il n'a pas publié sous son nom d'ailleurs, mais sous le nom de son fils. Donc, parce qu'il y avait la censure, et il y a un tas de lectures là, comme ça, à faire derrière ces textes qui s'ajoutent aux autres lectures qu'on peut entendre de toute façon au-delà de ça.
Avez-vous écrit un conte?
Alors, on m'a posé la question déjà, est-ce que j'allais écrire des contes? Alors, ni l'un ni l'autre, sauf que... quand j'écris, j'écris en racontant une histoire. Je raconte mon expérience. Alors, je ne raconte pas un conte. Je raconte ma découverte de la rue Freud et vers quoi elle m'a amenée. Je raconte comment l'histoire de la femme de Lot, amenée par une patiente, m'a amenée à aller explorer ce que Rodin avait fait avec sa femme de Lot et pourquoi il l'avait faite comme ça et qui il avait rencontré à l'époque. Et l'intérêt qu'il avait aux travaux de Charcot, le psychiatre, et donc tout ce travail sur l'hystérie, et donc Freud et l'hystérie derrière, puisque Freud était à Paris en même temps que Rodin travaillait. Et donc tout ce fil conducteur auquel je ne pensais pas du tout quand cette patiente m'a parlé de la femme de Lot, je l'ai découvert et je le raconte comme une histoire avec ses va-et-vient et tout ça. Donc je ne crois pas que j'écrirai un conte, mais que, en revanche, j'aime qu'on me raconte comment on vit les choses et qu'on me raconte l'expérience qu'on a, et j'aime raconter comment je travaille. De même, par exemple, à toute une époque où je n'étais pas encore psychanalyste et où j'étais formatrice pour des personnels soignants, à l'hôpital, je continue d'ailleurs de travailler à l'hôpital avec des équipes soignantes, j'essayais d'inviter les gens à me raconter leur expérience de soignant, de médecin, d'aide-soignant, etc. à raconter certaines situations pour qu'on s'enrichisse de la situation racontée et qu'ensuite on en fasse quelque chose pour éventuellement la pratique à venir en fonction des fonctions exercées par chacun. Donc j'aime raconter et j'aime qu'on me raconte. Et par exemple, s'il y en a parmi vous qui ont une expérience à raconter avec le conte, n'hésitez pas, ça serait instructif pour tout le monde.
Moi, je peux oui. raconter peut-être. Je ne sais pas où on en est pour le temps.
On a encore un peu de temps.
Justement, en lisant votre livre, quoi, sur le chapitre où vous parlez de Freud et Rodin, vous parlez de Dante aussi, à cause de la porte des enfers, et ça m'a remémoré une expérience où, à l'époque, je travaillais avec des enfants, de tout petits enfants de maternelle, qu'on avait amené voir le musée Rodin. Et qui, dans le jardin, se sont précipités sur la porte des enfers et se sont mis à l'escalader sous des regards horrifiés des touristes japonais et avec des institutrices extrêmement cool et zen qui disaient « Les enfants, il faut descendre de là maintenant !» Donc cette porte infernale, finalement, là encore, hein, tout dépend de comment on voit les choses, mais ces enfants-là, en tout cas, n'avaient peur de rien.
Et donc ils escaladaient l'enfer.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Belle histoire.
Bon.
Alors je précise juste que j'ai apporté mes livres, je fais ma petite pub, et donc si vous voulez en acheter, il y en a là-bas, il y en a encore dans la valise, et que certains ne se trouvent plus parce que les éditeurs aujourd'hui mettent au pilon très vite, et heureusement maintenant ils mettent plus au pilon, mais ils vendent à des revendeurs d'occasion, et du coup on les trouve sur internet. Voilà, ben merci à vous.
Merci.
Merci à vous.